Mes amis, c'est le soir du 20 juillet et nous continuons le thème de ce camp Mahanaïm 1986 et qui donc est Dieu. Et nous recherchons à découvrir ce que Dieu est en étudiant le livre du Cantique des Cantiques. Et ce soir, nous avons proposé à votre méditation les versets 9 à 17 du chapitre 1er. Je te compare, mon ami, à une jument au char du Pharaon. Tes joues sont agréables avec des rangées de joyaux, ton cou avec des colliers. Nous te ferons des chaînes d'or avec des paillettes d'argent. Pendant que le roi est à table, mon nard exhale son odeur. Mon bien-aimé est pour moi un bouquet de myrrhe. Il passera la nuit entre mes seins. Mon bien-aimé est pour moi une grappe de henné dans les vignes d'Engedi. Voici, tu es belle, mon ami. Voici, tu es belle. Tes yeux sont des colombes. Voici, tu es beau, mon bien-aimé. Oui, tu es agréable. Oui, notre lit est verdoyant. Les solives de nos maisons sont des cèdres, nos lambris des cyprès. Seigneur notre Dieu, nous te demandons une fois encore de nous sanctifier par ta parole, d'ouvrir et nos yeux et nos cœurs, de remuer profondément nos consciences, et que ce soir encore, tu nous illumines par ton esprit et que ta grâce opère dans tous nos cœurs. Nous voulons rester à ton école, ô Jésus, et découvrir les merveilles de ta loi pour que nous puissions, sur cette terre, dans les courts instants qui nous restent à vivre, être pleinement à ta louange, à ton honneur, nous qui portons ton si beau nom. Amen. Mes bien-aimés, en vous considérant ce soir, j'ai éprouvé dans mon cœur cet immense amour de Dieu pour chacune de vos âmes. Et nous désirons tellement que vous soyez mis en contact avec le Seigneur. Le Seigneur seul. Et c'est bien pour cela que nous désirons disparaître et que seuls nous puissions voir le Seigneur lui-même et entendre sa voix. Plus vous étudierez le Cantique des Cantiques, plus vous éprouverez que ce livre est biblique au superlatif, si je puis m'exprimer ainsi. En nous mettant à l'école de Jésus et en soumettant nos pensées aux règles que Jésus nous a enseignées dans l'Évangile, nous sommes arrivés à la conclusion que l'auteur de ce merveilleux poème était plus que Salomon. De telle sorte que Salomon, instrument de Dieu, est devenu un type du Seigneur lui-même, qui fut le vrai fils de David, celui qui était réellement roi. Vous vous souvenez de Jésus devant Pilate? Pilate lui dit, « Tu es donc roi ?» Et quelle fut la réponse de Jésus? Tu l'as dit. Je suis roi. Oui, notre Seigneur est roi. Mais son royaume n'est pas de ce monde. C'est pourquoi, pour distinguer quelque chose de son royaume, il faut vraiment naître de nouveau. Et pour y entrer, il faut devenir une nouvelle créature, une nouvelle création. Et cette nouvelle naissance ne s'opère que par la puissance de l'Esprit de Dieu. Notre Seigneur est donc roi. Mais nous avons découvert également que le Seigneur est aussi berger, un roi berger. Cela ne devrait pas nous étonner et nous apporter des difficultés. Un roi est le chef du peuple, et s'il est vraiment le chef du peuple, il en est le conducteur, le berger, et qui s'occupe de son peuple, et qui conduit les âmes vers la bénédiction et vers la vie. Notre Seigneur n'est pas seulement un roi, il est le berger, le bon berger. Le souverain berger de nos âmes, l'est-il pour vous ce soir? Est-il le berger de vos âmes? Car nous avons vu que la tsunamite représente spirituellement l'âme humaine qui a retrouvé le contact avec son Créateur, qui est devenu son Rédempteur. Alors nous voulons croire que vous avez trouvé ce que votre âme désirait. Ce lieu où le Seigneur paît son troupeau. Et quel est ce lieu où il paît son troupeau, où on peut trouver sa présence? Matthieu 18, verset 20. Là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis là, au milieu d'eux. Dis-moi, toi qu'aimes mon âme où tu paies ton troupeau. Bien, le Seigneur l'a dit, il est au milieu de ces deux ou trois et qui s'assemblent en son nom. Nous voulons croire que vous avez découvert quels sont ces pâturages où le Seigneur désire vous nourrir et vous donner du repos. Le psaume 23e nous l'indique. Le bon berger nous conduit à de verts pâturages il nous mène vers des eaux paisibles. Puis nous avons parlé encore de l'heure de midi. Je dis cela simplement pour rafraîchir votre mémoire. Le repos de midi, je l'ai souligné après le repas du soir, j'ai conscience que nous n'avons fait qu'effleurer ces vérités merveilleuses et tellement profondes. J'ai dit quelques mots sur ce repos de midi, sur l'heure de midi, l'heure de la Samaritaine, l'heure de l'apôtre Paul, l'heure d'Abraham. Mais qu'est-ce que j'aurais dû dire encore? Et plus encore, l'heure de midi, c'est l'heure où Jésus était crucifié publiquement sur la croix, élevé de la terre. C'était environ la sixième heure. L'heure de midi où à la face du monde, ce monde a manifesté ce qu'il faisait à Dieu s'il pouvait l'avoir entre les mains, s'en débarrasser, le crucifier. Mais Jésus avait dit que ce serait l'heure de sa gloire. Si le Fils de l'homme est élevé de la terre, il attirera tous les hommes à lui. Et cela est vrai. Père, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. Voici l'heure est venue. Et il n'a pas manqué cette heure. Et dans son amour pour nous, il s'est laissé crucifier. Et c'est à cause de cette heure de midi que nous avons le repos de nos âmes. Car quand Jésus nous dit, venez à moi, je vous donnerai du repos, il savait ce qu'il promettait. Mais ce repos, il allait nous l'acquérir à midi, par ces souffrances indicibles de Golgotha qui ont duré jusqu'à la neuvième heure, c'est-à-dire 3 heures de l'après-midi. Connaissez-vous le repos de midi? Et nous avons vu que, malgré son ignorance, l'âme qui cherche le Seigneur demeure pour le bien-aimé la plus belle parmi les femmes. Cela me touche profondément. Si tu ne le sais pas, ô la plus belle parmi les femmes. Le Seigneur nous aime tellement que même s'il nous voit ignorer certaines vérités, eh bien, il nous considère quand même avec le même amour. Nous nous sommes souvent durs avec les ignorants. Nous les mettons de côté. Nous aimons mieux travailler avec ceux qui avancent très vite. Le Seigneur aime les ignorants et il leur donne du temps, le temps qu'il faudra. Il persévère avec nous dans l'ouvrage qu'il a commencé. Et puis, voilà, au verset 9, tout à coup, la voix du bien-aimé retentit encore. Et d'une façon toute particulière, il dit ce qu'il pense de son ami et comment il la voit. Alors, dans ces versets 9 à 17, je vous demande affectueusement, qu'avez-vous trouvé en vous soumettant aux règles apprises à l'école de Jésus? La parole est à vous. Avez-vous été frappé, touché, interpellé par un des textes que vous avez lus? ou peut-être heurté. En lisant ces mots, quelles ont été les associations de pensée? Oui. Parlez le plus fort possible.
Au verset
9.
Mon Dieu, pardon. Tes joues sont agréables avec des rangées de joyaux, ton cou avec des colliers. Nous te ferons des chaînes d'or avec des paillettes d'argent. J'ai pensé aux armes du chrétien. J'ai pensé à notre santé des décorations que le chrétien devait servir. J'ai pensé à Philippiens.
Oui. Absolument, parce que au verset 9, nous voyons justement le combat après le repos. N'est-ce pas? Nous avons parlé du repos qu'on a en Jésus, mais nous sommes encore sur la terre et nous sommes attelés à un combat. Nous devons combattre. C'est l'Église militante qui est vue dans le verset 9, comme aussi l'âme du chrétien qui combat non pas avec des armes charnelles, mais des armes spirituelles. Éphésiens 6, oui. Je pensais que c'était cela que tu voulais dire. Éphésiens 6. On peut très bien rapprocher ce verset d'Éphésiens 6 et aussi de 2 Corinthiens chapitre 10. Les armes de notre guerre ne sont pas charnelles, mais spirituelles. Comment ? Il y a quelqu'un, oui.
C'est intéressant de voir qu'on bien souvent il mentionne le mot agréable et beau et beauté et la joie. C'est vraiment agréable, beau.
Oui, et c'est pas toujours, quelqu'un de beau n'est pas toujours agréable. Il y a de ces beautés désagréables. Hein. Non, il y a des gens qui sont beaux, mais qui ne sont pas agréables du tout. Alors, c'est ça qui est merveilleux, justement, je suis très heureux que tu le soulignes, beau et agréable. C'est merveilleux, être beau et agréable. Oui.
Moi, il y a le verset 12 là, qui m'a frappé, qui dit, pareil que le roi est à table, mon art exhale son odeur, et j'ai pensé à... La femme qui verse le parfum sur la tête de Jésus, le parfum de nard, selon Marc 14.
De grand prix, oui.
Et vous voyez que dans le fond, c'est qu'est-ce qu'elle a voulu faire, ce qui me semblait, c'est glorifier la vie intérieure du Seigneur. C'est comme si pour elle, sa vie intérieure était comme ce parfum-là. Et à ce moment-là, ben, il exhalait aux yeux de tous, il fallait glorifier.
Au fond, ce parfum de nard. Qu'avait Marie de Béthanie, hein, ce parfum de grand prix, c'est en quelque sorte sa vie qu'elle donnait au Seigneur, hein, qui lui-même allait très bientôt après lui donner la sienne. C'est beau. Nous allons le voir tout à l'heure encore. Mais c'est la seule fois dans le Nouveau Testament que nous trouvons le nard. Hein. Et on pense bien que c'est du cantique des cantiques que cela a été tiré aussi. Et vous voyez comme un mot peut nous amener à un autre texte de l'Écriture qui s'illumine. Le nard ici du cantique des cantiques nous conduit à Béthanie, à ce moment où Marie verse le parfum sur son bien-aimé, elle qui a appris à écouter d'abord, avant de servir, à adorer, avant d'accomplir toute espèce d'œuvre. Quelqu'un d'autre? Si possible, plus fort, parce que okay. Personne n'entendra.
Okay. La fois que je pense, c'est par rapport au verset 9, ben, je fais comprendre mon ami à Mijumin ou Richard du Pharaon. Tantôt, on a parlé des chevaux qui allaient au Congo, on a parlé des armes de Congo aussi. Il y a peut-être aussi l'aspect que les pharaons, c'était quand même très riche avant de avoir des chevaux de qualité, j'imagine.
Oui.
Des excellents chevaux qui sont bien entraînés à courir.
Il y a des textes qui te montrent que Salomon tirait tous ses chevaux d'Égypte. C'est l'Égypte qui fournissait les chevaux à Israël. Et c'était de magnifiques montures. Et leur harnachement en Orient est toujours magnifique. Il y a toute espèce de décoration. Comparé. Absolument, là c'est un honneur. Et puis c'était une cavale, une pouliche puissante, n'est-ce pas? C'était pas. Comment est-ce qu'on appelle un cheval malingre? Non. Non, je suis un peu fatigué, mais je voudrais trouver. Hein? Non, non, les talons, c'est le mal de. C'est pas les talons, mais. Une haridelle, je sais pas quoi. Hein? Une bigouille, vous dites? Une vieille rosse. Oui. Nous avons une explication justement de ce qu'est le cheval, et c'est Dieu lui-même qui donne. Je lis dans Job, chapitre 39, pour apporter un peu de lumière sur cette image. C'est Dieu qui parle à Job, verset 22e. « Est-ce toi qui donnes la vigueur au cheval et qui revêt son cou d'une crinière flottante? Le fais-tu bondir comme la sauterelle? Son fier hennissement répand la terreur, il creuse le sol et se réjouit de sa force, il s'élance au devant des armes, il se rit de la crainte, il n'a pas peur, il ne recule pas en face de l'épée, sur lui retentit le carquois, brille la lance et le javelot, bouillonnant d'ardeur. Il dévore la terre, il ne peut se contenir au bruit de la trompette. Quand la trompette sonne, il dit « En avant !» Eh bien, voilà qui nous montre ce que nous pouvons trouver dans cette image de la jument qui peut-être nous heurte, nous autres occidentaux, mais qui est un compliment de choix pour une orientale. Ça, il faut bien le comprendre, n'est-ce pas? Vous avez vu autre chose? Oui?
Moi, c'est une verset 15 qui dit «
que tu es belle, ma compagne, que tu es belle. Tes yeux sont des colombes. C'est lui qui dit ça à elle.
Oui.
Moi, ce que je vois là-dedans, c'est que les yeux, c'est un peu le miroir de l'âme.
Oui.
Puis, c'est que quand quelqu'un est attaché après Dieu, après Jésus, après le Saint-Esprit, c'est que les yeux de cette personne-là reflètent le Saint-Esprit, tu sais, l'amour de Dieu, tu sais. Puis la colombe, ça symbolise un peu le Saint-Esprit, l'amour, la paix.
Exactement, et vous pouvez faire toute une étude justement sur la colombe en commençant par le livre de la Genèse. Et vous trouvez la colombe de Noé, n'est-ce pas, qui prend un rameau d'olivier. Alors c'est le symbole en même temps de la pureté, parce qu'elle revient toujours dans l'axe, tandis que le corbeau, il se nourrit de charogne, tandis que la colombe, elle n'a pas trouvé un lieu propre où reposer son pied, hein. Elle revient dans l'arche. Puis, enfin, elle trouve un rameau d'olivier, symbole de la paix. Puis, comme tu l'as dit, qu'est-ce qu'on a vu descendre sur le Seigneur à son baptême? Le Saint-Esprit sous une forme corporelle semblable à une colombe, de sorte que la colombe est aussi le symbole du Saint-Esprit. Et puis, Jésus a parlé aussi de la simplicité de la colombe, que nous devions être simples comme les colombes. Et il dit, si ton œil est simple, n'est-ce pas ? Un œil semblable à la colombe, c'est un œil simple. Et si ton œil est simple, eh bien, ton corps tout entier sera dans la lumière. Quelque chose d'autre? Sinon, nous allons simplement parcourir encore une fois ces textes. Voyez-vous, ce que nous devons comprendre, c'est que je crois que les Juifs ont raison, les rabbins en particulier des siècles qui précédaient Jésus-Christ, qui disent que chaque mot dans l'Écriture a au moins 70 sens. De sorte que vous pouvez étudier la parole plusieurs fois de suite et vous trouverez toujours quelque chose de nouveau. Ne soyez jamais de ceux qui disent « Oh, mais je connais cela, je l'ai déjà lu. » Parce que tout à coup, le Seigneur, par son esprit, va vous révéler un nouveau sens, pas contradictoire, mais complémentaire. Et c'est cela qui sera votre richesse et qui vous nourrira. Et c'est pourquoi nous devons toujours lire la parole avec prière. Et cette parole nous édifiera et correspondra aux besoins les plus divers que l'on peut trouver dans un auditoire. Alors, après le repos des verts pâturages que nous avons souligné ce matin, il y a, disions-nous, le combat. Et l'âme qui cherche le Seigneur va apprendre à combattre. Et alors, je trouve que c'est merveilleux que le Seigneur nous dise comment il voit son amie combattante. Il ne la prend pas pour quelqu'un de minable, mais vraiment pour cette belle jument attelée au char du Pharaon. Et vous vous souvenez que les chars du Pharaon avaient poursuivi Israël lors de la sortie de l'Égypte, et en entrant dans les eaux de la mer Rouge, le Seigneur avait vaincu les chars du Pharaon. Alors, ça rappelle la victoire du Seigneur sur la puissance adverse. Mais maintenant, c'est la bien-aimée qui est comparée à la puissance qui était celle de l'armée du Pharaon. Mais maintenant qu'elle est au Seigneur, qu'elle appartient au Seigneur, qu'elle est en quelque sorte possesseur des dépouilles de l'Égypte, eh bien, le Seigneur aime à la voir dans cette beauté. Et vous voyez, il la regarde et il la dépeint. Il dépeint ses joues. Il parle de ses joues, il parle de son cou. Tes joues sont agréables, avec des rangées de joyaux. Comment vous représentez-vous les joues de la bien-aimée avec ses rangées de joyaux? C'est sa chevelure qui retombe sur ses joues. Et cela forme un ensemble agréable. Il la trouve belle, et sa chevelure sur ses joues, eh bien, apporte encore plus de beauté à celle qui maintenant est appelée dans ce monde à combattre contre toutes les puissances spirituelles de méchanceté, mais qui aura cette force du cheval. Et qu'est-ce que le Seigneur dit encore d'elle? Il parle de son cou et qui est délivré du joug qu'elle a porté autrefois en Égypte. Maintenant, elle en est libérée et elle a un collier. Vous vous souvenez aussi que le collier, c'est l'insigne de la puissance et d'un honneur qui nous est fait. Je prends cela toujours dans la Genèse. Quand Joseph fut délivré de sa prison et qu'il eut expliqué au Pharaon ses songes, et que le Pharaon est saisi par ce que lui a dit Joseph, que lui remet-il autour du cou comme un signe de la mission qu'il lui confie, un collier. Et le collier, justement, est un insigne de puissance. Et nous pouvons aussi voir Rebecca. Rebecca était une fille toute simple qui habitait aussi la Mésopotamie. Et quand elle est arrivée vers le puits où le serviteur d'Abraham, Eliezer, attendait dans la prière que Dieu lui révèle qui serait la femme de son maître Isaac, Rebecca n'avait aucune parure. Et pourtant, après sa rencontre avec Eliezer, quand elle est retournée chez Bethuel, son père, et vers Laban, son frère, qu'est-ce qu'on a vu sur Rebecca? Des anneaux, des ornements d'or qui les lui avait donnés. Eliezer, mais de la part de qui? De la part d'Isaac. Et Rebecca était, au fond, ornée déjà des richesses de celui qui deviendrait son époux. Et alors, nous avons ici la même pensée. Et je voudrais vous lire quelque chose qui va éclairer tout ce passage. C'est dans le chapitre 16 d'Ézéchiel. Vous verrez que c'est le Seigneur qui nous parle de sa beauté. Chapitre 16 d'Ézéchiel. La parole de l'Éternel vint à moi, disant, « Fils d'homme, fais connaître à Jérusalem ses abominations, et dis, ainsi dit le Seigneur l'Éternel à Jérusalem. Ton origine et ta naissance sont du pays des Cananéens. Ton père était un Amoréen, et ta mère une Éthienne. Et quant à ta naissance, le jour où tu naquis, ton nombril ne fut pas coupé. Tu ne fus pas lavé dans l'eau pour être nettoyé. Et tu ne fus pas frotté avec du sel, et tu ne fus pas emmailloté. Au fond, tu es né et on t'a jeté là dehors sans aucun soin. C'était bien notre âme, telle que le Seigneur l'a trouvée dans nos péchés, mourant dans nos péchés et complètement abandonné. Aucun œil n'eut pitié de toi. Personne ne peut racheter son frère ni payer sa rançon. Non. Aucun œil n'eut pitié de toi pour te faire une seule de ces choses, pour avoir compassion de toi. Mais tu fus jeté sur la face des champs à cause de l'horreur qu'on avait de toi le jour où tu naquis. C'est vraiment, si vous sondez ces textes, une image de l'état dans lequel le Seigneur nous a trouvés. Et je passais près de toi. Oh, que j'aime cette expression. Nous étions morts dans nos fautes et dans nos péchés, complètement délaissés. Et je passais près de toi. Et je te vis gisante dans ton sang. Et je te dis dans ton sang, vis. C'est ainsi que par la parole nous avons reçu la vie. Le Seigneur nous a donné la vie par sa parole. Mais il ne nous a pas seulement donné la vie. Je te dis, vis dans ton sang. Et je t'ai multiplié comme les germes des champs. Quand le Seigneur commence à s'occuper d'une âme, il poursuit son œuvre. Et il ne nous laisse pas dans la misère et dans la médiocrité. Tu pries ta croissance. Il est normal qu'une âme que le Seigneur a sauvée croisse. Croissez dans la grâce. Tu devins grande. Tu parvins au comble de la beauté. Voilà ce que le Seigneur opère en nos âmes. Tes seins se formèrent et ta chevelure se développa. Mais tu étais nu et découverte. C'est bien ce que nous sommes par nature. Et nous devons nous en rendre compte que, laissés à nous-mêmes, malgré toute l'œuvre qui a déjà été faite, nous sommes nus et découverts. Alors, je passais près de toi. Vous voyez, ce Seigneur qui revient, ce Seigneur qui passe près de nous. Je passais près de toi, je te vis, et voici ton âge, était l'âge des amours. Et j'étendis sur toi le pan de ma robe, comme Boaz aussi l'a fait pour Ruth. C'est le signe de l'alliance qu'il va nous prendre pour son épouse. L'union avec le Seigneur. J'étendis sur toi le pan de ma robe, et je couvris ta nudité, et je te jurai, et j'entrai en alliance avec toi, dit le Seigneur l'Éternel, et tu fus à moi. Voilà, le Seigneur nous dit que nous sommes à lui. Je te lavais dans l'eau, je te lavais à grandes eaux, je lavais ton sang de dessus de toi, et je t'oignis d'huile. Qu'est-ce que l'huile symbolise? Le Saint-Esprit, n'est-ce pas? Il nous donne son esprit. Son sang nous lave. La parole de Dieu nous purifie. Son sang a expié nos fautes. Et puis maintenant, il met l'huile sur nous. Il nous oint de son esprit. Et je te vêtis de broderie. Et je te chaussais de peau de tesson. Et je te ceignis de lin blanc, qui symbolise la pureté et je te couvris de soie. Je te parai d'ornements, je mis des bracelets à tes mains, un collier à ton cou, je mis un anneau à ton nez, des pendants à tes oreilles, et une couronne de beauté sur ta tête. Tu fus paré d'or et d'argent, et ton vêtement était de lin blanc, et de soie et de broderie. Tu mangeas de la fleur de farine, et du miel, et de l'huile, et tu devins extrêmement belle. Voilà ce que le Seigneur fait de son épouse. Voilà ce qu'il veut faire aussi de son Église. Un jour, il se présentera son Église à lui-même, et il dit, glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Il se la présentera parfaite. Et tu prospéreras jusqu'à être un royaume. Et ta renommée se répandit parmi les nations à cause de ta beauté, car elle était parfaite par quoi? Parce que tu avais fait pour parvenir à la perfection? Tu étais parfaite par ma magnificence que j'avais mis en toi. De sorte que s'il peut parler de la beauté de la bien-aimée, c'est la beauté de qui qu'il voit en elle? C'est sa beauté. C'est sa propre beauté. Et alors, vraiment, on est émerveillé de penser que des êtres si misérables comme nous, souillés dans nos fautes, dans nos péchés, aient été l'objet d'un tel amour. Il a voulu notre bonheur. C'est lui qui nous part de tous ses dons. Mais il y a quelque chose de plus, vous avez vu, à la fin de, au verset 11. Tout d'un coup, il est dit, nous te ferons. Vous avez remarqué cela? Le Seigneur parle, puis tout à coup, il dit, nous te ferons. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est la Trinité. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Jésus l'avait annoncé que celui qui garderait sa parole, c'est celui-là qu'il aimerait. Et celui qu'il aimerait, eh bien Jésus promet, nous viendrons à lui. Et nous ferons notre demeure chez lui. Il y a quelque chose là de merveilleux. C'est le Seigneur lui-même, mais pas seulement le Seigneur, le Père, le Fils et le Saint-Esprit devient vraiment, toute cette plénitude de Dieu vient habiter en nous, le Père dans notre esprit, le Fils dans notre âme, et le Saint-Esprit possédant notre corps, ce que nous disons souvent, le Dieu tout entier dans l'homme tout entier. Nous te ferons. Alors ces chaînes d'or et ces paillettes d'argent, c'est encore une promesse de nouveaux dons dont il va nous parer. Mais c'est cet or passé au feu dont nous parle l'Apocalypse. Je te conseille d'acheter de moi de l'or passé au feu. À l'église de Laodicée qui se croit riche et qui est pauvre, elle a besoin de cet or qui est la justice divine. Eh bien, le Seigneur, lui, nous donnera ces chaînes d'or. Mais sur quelle base? Sur la base de la rédemption, l'argent étant le symbole de la rédemption. Verset 12. Pendant que le roi est à table, mon art exhale son parfum. Nous sommes maintenant en présence de la table du roi. Nous avons pu ce matin être à sa table. Est-ce que notre nard a exprimé son parfum? Le nard, c'est le symbole de l'humilité. C'était un parfum d'un très grand prix, comme l'humilité est d'un très grand prix. Souvent, nous ne rendons pas grâce, nous n'avons pas d'action de grâce, ni de louange, par manque d'humilité, par orgueil. Nous restons la bouche fermée, alors que nous devrions pouvoir dire quelque chose au Seigneur. Je suis toujours frappé et bouleversé. On peut parler de toutes sortes de choses. On a un langage. On n'a pas de peine à s'exprimer. Mais quand il s'agit de dire quelques mots à Jésus, on est comme paralysé. Et vous n'avez pas honte de parler les uns aux autres. Alors pourquoi est-ce que nous n'avons rien à dire au Seigneur? Pourquoi est-ce que c'est si difficile? Mais est-ce que nous ne réalisons pas sa présence? Que le Seigneur parle à nos cœurs pendant que le roi est à table, alors qu'il nous a invités à sa table. Notre nard a-t-il exprimé son parfum? Ce nard était extrait d'une plante originaire des Indes et dont l'odeur était exquise. Qu'est-ce que le Seigneur doit penser de nos cultes? Qu'est-ce que c'est qu'un culte, frères et sœurs? Dans nos églises, dans nos communautés, pourquoi est-ce que nous nous réunissons? Pour aller écouter une prédication? Ou bien est-ce que nous avons pu trouver un lieu où l'on est libre pour adorer, pour bénir, pour louer le Seigneur? Non pas dans une exaltation charnelle, mais prosterné devant le Seigneur, le bénissant parce qu'il remplit notre vie. Mais vous savez, il n'y a rien d'artificiel. Je sais très bien qu'on peut conditionner un culte par toute espèce de chant, par du rythme, par la musique. Alors les sens sont pris, mais le Seigneur ne désire pas être adoré par nos sens. Dieu est esprit et il veut être adoré en esprit et en vérité. Je crois que nous avons beaucoup à apprendre. Votre nard à la table du roi, à la table du Seigneur, a-t-il exprimé son odeur? Vous voyez, Marie, eh bien, au fond, ce nard qu'elle a répandu, c'est sa vie. Notre nard, c'est notre vie. Quelle est votre odeur? Quelle a été notre odeur ce matin pour le Seigneur? Qu'a-t-il pu respirer dans notre culte? Là, elle dit, mon nard exhale son odeur. Pendant que le roi est à table, il y a des moments sacrés dans la vie. Et le culte d'adoration est un de ces moments sacrés. Et qu'est-ce qu'il a été pour nous ce matin? Notre bien-aimé, oh, que je voudrais que nous puissions comprendre. Mon bien-aimé est pour moi un bouquet de myrrhe. Et la myrrhe, c'est aussi un parfum, un autre parfum, une sorte de gomme, de résine. qui est sécrété par une plante très recherchée pour son parfum envoûtant, presque étourdissant. Et la myrrhe dans l'écriture nous parle toujours de la souffrance et de la mort. Et quand elle dit ici, mon bien-aimé est pour moi un bouquet de myrrhe, en Orient, eh bien, aussi bien le nard que la myrrhe se mettaient dans le nard dans un petit flacon qu'on mettait entre ses seins, et puis la myrrhe, c'était un petit sachet que l'on plaçait entre ses seins. Et qu'est-ce que ça veut dire entre ses seins? Qu'est-ce que ça symbolise? Sur son cœur, n'est-ce pas? Dans la partie la plus intime, la plus cachée, au moins en Orient. N'est-ce pas? Parce que en Occident maintenant. Vous comprenez? Oui, alors voilà, quand on lit le Cantique des Cantiques, on peut le dire de six manières. Hein? Mais quand on veut rechercher la personne du Seigneur, le Seigneur entre vos seins, qu'est-ce que c'est? C'est aussi pour les hommes. Le Seigneur entre nos seins, le Seigneur sur notre cœur, une vie en lui, une vie cachée. Et pour moi, c'est une image merveilleuse de 2 Corinthiens 4. Nous portons toujours partout dans le corps la mort de Jésus, afin aussi que la vie de Jésus soit manifestée en vous, n'est-ce pas? C'est en ayant dans notre cœur tout ce que nous a apporté la mort du Seigneur. Et le dimanche matin, quand nous sommes au culte, il faut qu'on aille le Seigneur comme un sachet de myrrhe, hein, qu'il soit lui-même notre myrrhe. Il est lui-même notre myrrhe, et il est là dans notre intimité, dans notre cœur, en quelque sorte. Il nous habite, hein. Nous avons recherché son amour, et nous a introduit dans ses appartements. Et puis maintenant, nous avons aussi demandé où il faisait paître son troupeau, où il le faisait reposer. Et puis maintenant, qu'est-ce que nous apprenons? Que c'est lui qui veut venir en nous. Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et qu'il ouvre, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui. Et il sera à votre table. Sa table devient votre table. Et nous avons une communion réelle avec lui. Sondez les Écritures, méditez sur ces passages et méditez sur la myrrhe à travers l'Écriture. Vous verrez que la myrrhe, on en a employé pour l'ensevelissement du Seigneur. Donc, la myrrhe nous parle et de ses souffrances. C'était une boisson mixtionnée de myrrhe qu'on a voulu lui donner lorsqu'il allait à la croix. Et puis, la myrrhe, vous la retrouvez pour son ensevelissement. Alors, mon bien-aimé, il est pour moi un bouquet de myrrhe. Il passera la nuit entre mes seins. Qu'est-ce que c'est cette nuit? C'est la nuit de son absence. Maintenant, le Seigneur est absent, mais pendant son absence, pendant cette nuit, où est-il notre Seigneur? Il n'est pas au fond du ciel, hein? Il est dans notre cœur, au plus intime de nous-mêmes. C'est cela le vrai témoignage. Et nous devenons nous-mêmes le parfum de Christ. Mais s'il y a une vie cachée, une vie intérieure, il y a aussi un témoignage extérieur. Alors vous l'avez dans la grappe de Troène, verset 14. Mon bien-aimé est pour moi une grappe de henné, ou de Troène, une grappe de henné dans les vignes d'Engedi. Le henné aussi est une fleur très parfumée que l'on trouve là dans ces vignes d'Engedi, et cela nous donne tant de souvenirs. Au nord de la mer morte, il y a ces vignes d'Engedi, où David, persécuté par Saül, s'était réfugié dans ces lieux forts d'Engedi, où l'on voit de nos jours encore des bouquetins. Et là, dans ces vignes pleines de fruits, c'est une véritable oasis, Engedi, encore maintenant, eh bien, il y a ces grappes de henné. C'est un bouquet que l'on tient à la main, des fleurs très blanches, très odorantes, et les feuilles fournissent une teinture rouge que les femmes d'Orient emploient pour elles, soit pour les lèvres ou même pour les cheveux. Eh bien, ce que le Seigneur est pour nous, c'est quelque chose de caché, mais c'est aussi quelque chose de visible. Nous avons un témoignage. Est-ce que notre témoignage est un parfum? Est-ce que notre témoignage a cette beauté d'une grappe de henné? On l'a dans son cœur, mais on l'a aussi à la main, d'une façon visible. C'est vraiment la mort en nous qui produit la vie chez les autres, comme nous l'avons dans plusieurs passages du Nouveau Testament. Et nous passons rapidement sur les autres textes. C'est de nouveau alors le bien-aimé qui parle, il y a un dialogue. Voici, tu es belle, mon ami, voici, tu es belle. Belle de sa beauté. Et puis, il voit maintenant ses yeux qui sont des colombes. Comment est-ce que nos yeux peuvent devenir des colombes? Quand nous regardons quoi? Le monde? C'est comme je dirais, mais qu'est-ce que vous avez entre vos seins? Est-ce que vous avez le Seigneur ou bien des adultères? Parce que c'est bien cela qu'il est dit dans un autre passage. Osée, je vous le cite encore, pour que vous voyez qu'il peut être parlé souvent des saints dans l'Écriture. Et nous pouvons nous demander ce qui nous caractérise. Osée 2, verset 4. Plaidez, plaidez contre votre mère, car elle n'est point ma femme, et je ne suis point son mari. Dieu qui parle. Quel hôte de sa face, ses prostitutions, et de ses seins, ou de son sein, d'entre ses seins, ses adultères. Voilà la comparaison. Eh bien, dans le monde, qu'est-ce qu'il y a entre les saints? Qu'est-ce qu'il y a dans la vie d'une multitude d'hommes? Le péché, l'adultère, de mille manières, la prostitution. C'est cela qu'on a au fond de son cœur. Du cœur sortent les mauvaises pensées. Mais si vous avez le sachet de mire, tout est différent. À nous de savoir ce qui est entre nos seins, sur notre cœur. Et pour que nos yeux soient des colombes, il nous faut le regarder. On ne peut pas regarder dans les yeux de Jésus et pécher. Et puis, la bien-aimée parle encore. Voici, tu es beau, mon bien-aimé. Oui, tu es agréable. Comme on le disait tout à l'heure, beau et agréable. C'est pas toujours, ça ne va pas toujours ensemble, mais là, ça va ensemble. Le Seigneur est beau. Il est agréable. Et puis tout à coup, qu'est-ce qu'elle dit? Qu'est-ce qui vous frappe? Oui, notre. Hein? Notre. Maintenant, elle est unie à lui. Et tout est en commun. C'est vraiment l'union. Avant, elle parlait de lui ou elle parlait d'elle. Puis maintenant, elle parle des deux. Ils sont unis dans ce lit qui est le lieu du repos, le lieu de l'union. Notre lit est verdoyant. Les solives de nos maisons, elle ne dit pas de sa maison, mais de nos maisons, sont des cèdres, nos lambris, des cyprès. Nous reviendrons là-dessus. Mais je voudrais seulement ce soir souligner que dans l'union avec le Seigneur, il arrive un jour où tout à coup nous découvrons que nous avons tout en commun. Nous avons tout en commun. Le repos, on l'a avec lui. On l'a en lui. Et lui-même se repose en nous. Est-ce que vous avez saisi cela? Le Seigneur trouve son repos dans vos âmes. Il veut, dans ce monde où il n'a pas de place, se reposer dans vos cœurs. Est-ce que notre cœur lui est ouvert? Toutes choses sont à nous, et nous à Christ, et Christ à Dieu. Seigneur, nous voulons te bénir et te rendre grâce pour cette union à laquelle tu nous appelles. En te possédant, nous possédons toutes choses. Et le bonheur nous vient vraiment de toi. Merci de ce que tu nous armes pour le combat. Merci de nous dire comment tu nous vois et ce que tu veux faire encore pour que nous puissions être des vainqueurs dans la lutte que nous avons à mener dans ce monde. Nous sommes rassurés parce que tu nous dis que tu nous regardes. Et nous te remercions pour les promesses que tu nous fais, que tu veux encore nous donner d'autres grâces, que c'est toi-même qui nous donneras cet or et ces paillettes d'argent. Nous te louons pour tant de générosité. Je te demande que chacun ici, dans cette salle, se sentent concernés, que tu es disposé, que tu désires revêtir chacune de nos âmes, même que tu as trouvé dans la plus grande laideur, tu désires la revêtir de ta beauté, comme nous l'avons lu dans Ézéchiel. C'est ce que tu as fait, c'est ce que tu fais, et tu es un Dieu fidèle. Tu es le Dieu de la persévérance. Tu achèveras ce qui nous concerne, ce que tu as promis, pour qu'un jour tu puisses nous faire paraître devant ton Père dans ta beauté. Nous nous réjouissons de ce moment et nous voulons, en attendant, te laisser nous façonner. Nous te faisons éperdument confiance et nous te louons parce que tu es un Dieu fidèle, que tu trouves ton repos en nous et que nous puissions trouver notre repos en toi dans une communion ineffable jusqu'à ce que tu viennes. Amen.